Vous écoutez France Culture.
Question d'éthique, une émission hebdomadaire proposée par Monique Canto Sperber. Marc Aurèle, La morale et l'empire, avec Jean-Baptiste Gourina. Fouille au-dedans de toi, c'est au-dedans qu'est la source du bien et elle peut jaillir sans cesse si tu fouilles toujours. C'est une pensée extraite du livre 7 des pensées de Marc Aurèle, ces courts textes rédigés au jour le jour par l'empereur au cours de 15 ans de campagne militaire. Marc Aurèle, empereur des Romains et philosophe. Marc Aurèle a mis le stoïcisme en œuvre par la pratique d'une méditation, d'une formation de l'âme conduite dans les circonstances les plus difficiles. « Seras-tu toi jamais ô mon âme, bonne, droite, une, nue, plus manifeste que le corps qui t'enveloppe ?» Jean-Baptiste Gourina, vous êtes philosophe, chercheur et vous avez publié un « Que sais-je » de référence, « Le stoïcisme au puf ». Conde si exceptionnelle la pensée et la personnalité de Marc Aurèle.
Oh, bien, c'est certainement la combinaison, comme vous le signaliez, d'un philosophe et d'un empereur, c'est-à-dire quelqu'un qui, tout en étant au fait du pouvoir, essaye de continuer à avoir une vie philosophique, à méditer philosophiquement et à mettre en pratique, d'une certaine manière, la philosophie, d'abord pour lui, mais aussi dans sa manière de gouverner l'Empire. Alors, non sans doute que ça ait inspiré des réformes politiques particulières, mais une certaine façon de gouverner et un certain idéal de gouvernement dans l'intérêt à la fois de l'Empire et du monde entier, c'est-à-dire qu'il voulait qu'il y ait une harmonie entre l'Empire et entre Rome et le monde, et gouverner pour le bien à la fois de son propre État et du monde entier. Et
je pense Mais que... y est-il parvenu, parce qu'il a été empereur dans, dans un moment difficile pour l'Empire romain, le deuxième siècle après l'ère chrétienne, le début des les invasions barbares, donc des fortes menaces sur l'Empire romain autour dans la région du Danube, en Germanie. Quelle occasion a-t-il eu de montrer à la fois cette magnanimité, cette tempérance et cette conception de l'œuvre de chacun à situer dans un tout?
Alors, il y a réussi, oui et non. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on peut dire qu'il y a réussi, puisque justement, un empire toujours menacé de son temps n'a jamais cédé. C'est-à-dire qu'il a justement beaucoup payé de sa personne, qu'il était tout le temps sur le front, pendant des années et des années, comme vous le signaliez, et qu'il a justement vécu tout un grand nombre de catastrophes, des crues qui ont inondé Rome, une grande crue du Tibre, ce qu'on appelle une peste, mais on ne sait pas exactement quelle maladie c'était, qui s'est répandue sur l'Empire. Donc d'une certaine manière, son époque est une époque de calamité. Et malgré ça, elle a été vécue, elle est restée dans la mémoire collective comme une des périodes les plus heureuses de l'Empire, comme une des périodes les plus fastes, justement à cause de la manière dont il a réussi à faire face à toutes ces calamités. Je pense que donc, d'une certaine manière, on peut dire qu'il y a réussi. Maintenant, évidemment, comme je le disais, il n'a pas non plus mis, et il s'en est bien gardé justement, une empreinte vraiment philosophique sur son gouvernement. Il n'a pas essayé d'appliquer des réformes. La seule réforme sans doute qu'il ait vraiment appliquée, c'est une réforme de l'enseignement, c'est-à-dire qu'il est le premier à créer des chaires d'État avec des professeurs de philosophie appointés par, par l'État et qu'il a créé en 176 à Athènes, c'est-à-dire quelques années avant sa mort en fait.
Le temps de la méditation, le temps de la pensée n'est pas le même que le temps de l'action. Les pensées de Marc Aurèle, ses textes pour lui-même, Aïséoton, pour reprendre le terme qui figure, à coller à ses écrits, étaient des pensées qui ont pour l'essentiel été écrites pendant les temps de campagne militaire. À quel moment Marc Aurèle les écrivait-il? Comment trouvait-il les moyens de ce détachement?
Alors c'est difficile de dire à quel moment il les écrivait. Il n'est pas sûr d'ailleurs qu'il ait tout écrit lors de ses campagnes. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de livres qui semblent quand même plutôt avoir été écrits à Rome. Et si on regarde la différence de ton de certains livres, on voit que certains sont très imprégnés par l'idée de la mort, par la violence, mais aussi par un sentiment de la nature. Ce sont les, à part le premier livre, ce sont les premiers livres de, à partir du livre 2 de son œuvre. Et puis ensuite, on voit quelque chose, un ton un petit peu différent, parfois un petit peu plus abstrait, et beaucoup de références à la vie de cour. Et donc on a l'impression quand même que tout n'a sans doute pas été écrit dans les mêmes conditions. Alors savoir à quel moment il les écrivait, le plus probable est qu'il les écrivait le matin avant de se livrer à ses tâches quotidiennes, puisqu'on a beaucoup de réflexions matinales où il dit « dès le matin pense à ceci, dès le matin pense à cela ». Mais évidemment c'était certainement des choses qu'il faisait dans les moments où il avait un peu de temps, et vraisemblablement plutôt le matin. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que peut-être une des raisons pour lesquelles il les écrit quand même surtout en temps de guerre, c'est parce qu'il est isolé et qu'il n'a pas, comme il l'avait à Rome, d'autres philosophes avec qui il pouvait discuter, s'entretenir, puisque toute sa vie, quand il est à Rome, il continuait à suivre des cours de philosophie. Et d'ailleurs, ses contemporains s'en moquaient en disant « voilà notre empereur qui va avec son cartable suivre des cours de philosophie comme un gamin ». Mais en revanche, quand il se trouvait sur le front, là, il est évident qu'il n'avait pas de compagnon philosophique avec qui discuter, et c'est pour ça probablement ça favorisait beaucoup cette nécessité chez lui d'une méditation et d'un dialogue avec lui-même, parce que c'était la seule chose qu'il pouvait faire en réalité.
Ce choix en faveur de la philosophie, puisque Marc Aurèle l'aurait fait assez tôt et l'aurait nettement affirmé face à ses maîtres, en particulier le plus illustre de ses maîtres, Fronton, professeur de rhétorique. Ce choix pour la philosophie était-il extraordinaire de la part d'un jeune garçon qui ne savait pas encore qu'il serait empereur, mais qui avait toute raison de penser qu'il pourrait accomplir une carrière politique tout à fait remarquable?
Oui et non, c'est-à-dire que il y a quand même beaucoup d'aristocrates romains qui font des études de philosophie, qui se convertissent plus ou moins à la philosophie, mais avec quand même les perspectives qu'il avait, parce qu'à partir du moment où il est adopté par Antonin, par l'empereur, il est à peu près sûr que c'est lui qui un jour lui succédera.
Mais à l'âge de 17 ans.
Voilà, oui. Mais c'est quand même aussi l'âge où sa vocation philosophique se détermine.
Mais être philosophe à ce moment-là, Rome n'est pas sans conséquence. Il y a un certain style philosophique à adopter.
Oui.
Le fameux manteau du
fameux
philosophe.
Manteau. Alors,
l'engagement à dormir sur le sol de pierre.
Alors, ça, c'est des
pour
choses.
Pour un empereur. Voilà, pour
oui,
un
non,
futur
pour un empereur, ça n'est pas
est-ce
évident.
Est-ce que ce ne sont pas des choix de vie difficiles?
Ce sont des choix de vie difficiles, mais ce sont des choix de vie auxquels, là, il faut dire qu'il a renoncé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il devient empereur, la pourpre cède le pas au reste et il ne dort plus par terre, il ne porte plus le manteau du philosophe. Et donc, ce sont des choses qui ont changé et qui avaient d'ailleurs beaucoup inquiété sa mère, qui était très inquiète quand il était jeune. jeune, de le voir vraiment vivre en philosophe, en dormant par terre, mangeant peu, etc. Alors... Et donc, elle a été rassurée d'une certaine manière, je crois, par une nouvelle orientation. Mais alors, semble-t-il, il y a eu aussi un de ses maîtres de philosophie qui lui a fait comprendre que, précisément, la philosophie ne consistait pas dans ses pratiques ostentatoires. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine habitude, quand on voulait faire savoir qu'on était philosophe, de se comporter comme un philosophe, et ceci était souvent justement un peu ostentatoire. Et ce maître-là lui a dit, écoute, non, ça n'est pas comme ça qu'on fait de la philosophie, ça n'est pas en se donnant tous les attributs extérieurs du philosophe, c'est en intériorisant vraiment la pratique de la philosophie. Et donc il y a effectivement un moment où c'est ce qu'il fait. Et alors, donc, de ce fait, sa pratique de la philosophie était souvent assez privée, puisque le texte que nous connaissons, personne ne le connaissait. C'est-à-dire que c'est un texte qui est passé inaperçu.
Écrit pour lui-même.
Écrit pour lui-même, qu'on a redécouvert 700 ans après sa mort, en réalité, et donc qui est passé inaperçu. Mais, malgré tout, on savait dans l'Empire qu'il se comportait en philosophe, et il y avait même des légendes. Par exemple, une légende disant qu'au début d'une campagne, il avait harangué ses troupes pendant 3 jours en leur faisant une interminable leçon de philosophie. Donc il faut imaginer évidemment ce que pouvait représenter une leçon de philosophie stoïcienne pour des troupes en campagne qui attendaient de se battre contre les barbares. Mais c'est probablement une légende, mais quand même ça dit beaucoup sur la façon dont il était perçu à l'époque.
D'après Dion Cassius, Adrien l'aurait appelé Verissimus, en jouant sur son nom, le plus vrai. Tout laisse penser que son caractère, ses qualités de caractère et son intelligence étaient exceptionnelles. Adrien l'a adopté pour être empereur, enfin, il a été également adopté par Antonin, qui sera le successeur d'Adrien. Donc il a été véritablement choisi pour cela, en raison de ce qu'il était. Il était le petit-neveu d'Adrien, mais il a véritablement été désigné pour ce rôle. Comment peut-on se représenter sa conception de l'Empire, de travailler à l'harmonie, maintenir l'Empire romain? Y a-t-il quelque chose qui va au-delà de cela?
C'est vrai qu'il a quand même un aspect très romain, c'est-à-dire qu'il a une idéologie qui n'a pas grand-chose à voir quand même avec son stoïcisme, en tout cas qui n'est pas directement inspirée par son stoïcisme, qui est une idéologie d'empereur romain qui lui est inspirée par sa famille et par son éducation. Mais au-delà, il y a justement une tentative pour identifier le destin de Rome au destin de l'univers, en disant tout ce qui est bon pour Rome est aussi bon pour l'univers et inversement. Et donc cette manière quand même aussi de vouloir sans doute ouvrir davantage l'Empire, être quand même, il est aussi très grec d'esprit, et d'ailleurs c'est un trait que ses pensées sont écrites en grec, et donc il y a quand même, il donne un tournant très culturel à l'Empire et un peu grec, mais enfin c'était quelque chose qui était déjà en place chez Adrien et chez Antonin certainement.
Alors le choix philosophique, le choix de la philosophie pour lui a été un choix qui l'a tout entier orienté vers la philosophie stoïcienne.
Oui, oui.
La philosophie stoïcienne était née, enfin en tout cas les premiers philosophes stoïques étaient beaucoup plus anciens. Ils sont dans un décalage chronologique de près de 5 siècles.
Oui. Et à Athènes. Donc il y a un décalage aussi de lieu.
Même s'il y a une tradition stoïcienne vivante à Rome. On en connaît beaucoup, en particulier Sénèque. Comment Marc Aurèle a-t-il été en contact avec la philosophie stoïcienne et cette adhésion très forte aux pensées de la philosophie stoïcienne, jusqu'où allait-elle ? Concernait-elle essentiellement l'éthique, la morale, ou touchait-elle également au système complet du stoïcisme, la logique, la physique ?
Alors, c'est vrai qu'effectivement, comme vous le dites, il y a la philosophie stoïcienne est un système complet qui ne comprend pas seulement l'éthique. Et de ce côté-là, Marc Aurèle a une position un peu ambivalente. C'est-à-dire qu'il adopte d'une certaine manière, je crois qu'on peut le dire sans trop d'hésitation, l'ensemble du système, mais il ne met en pratique essentiellement que la partie éthique. Et surtout, on voit que sa méditation est d'une certaine manière centrée sur l'éthique. Alors, c'est une question qui est très discutée et sur laquelle lui-même est ambivalent, parce que de temps en temps, il dit par exemple. Tu as renoncé à être dialecticien, c'est-à-dire logicien et physicien, ne renonce pas pour autant à pratiquer les vertus. Et donc, dans un texte comme ça, on voit très bien qu'il renonce à faire de la physique et à faire de la logique et qu'il se concentre sur l'éthique. D'un autre côté, il peut dire, pour toute chose, réfléchis en logicien, en physicien et en moraliste. Et donc, il a manifestement une attitude très ambiguë. Et je crois que ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'a jamais eu le temps et d'une certaine manière, jamais les capacités, par exemple, de travailler à fond la logique. Et il rejette ça comme un peu superflu et il dit « Heureusement, je n'ai pas perdu mon temps à étudier la logique ». C'est un peu la même chose pour la physique et l'essentiel de ces méditations se concentre sur l'éthique, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'adopte pas les autres parties et notamment qu'il n'adopte pas la physique parce que il est impossible véritablement de séparer la physique et l'éthique dans la mesure où justement c'est une éthique entièrement fondée sur la conformité à la nature.
Et la philosophie stoïcienne est un tout.
Est un tout, exactement.
De pensée qui soit en ce sens plus cohérente et d'une certaine manière, étudier l'éthique seule ou ne se concentrer que sur l'éthique sans envisager le fondement physique et logique est déjà une démarche qui est extrêmement partiale.
Oui, ce ne serait pas possible, en fait.
La rencontre de textes, enfin d'une œuvre majeure qui a confirmé ou conforté l'orientation de Marc Aurèle a été celle d'Épictète.
Oui, tout à fait. Oui. Qui lui a été donné, dont le texte lui a été donné par Junius Rusticus, un de ses maîtres, et semble-t-il dans une version plus complète que celle que nous avons, puisque nous n'avons 4 livres, et il semble que Marc Aurèle en ait eu 8. Enfin, ça n'est pas absolument clair, mais ça a été vraiment une grande révélation, manifestement, pour lui. Et c'est sans doute, puisqu'il a étudié quand même d'autres philosophies, et qu'on voit d'ailleurs dans son œuvre qu'il y a des traces, notamment des philosophes présocratiques, aussi de Platon, mais c'est sans doute ce qui a été déterminant dans son choix du stoïcisme, sans compter le fait qu'il a quand même eu manifestement davantage de maîtres stoïciens dans ses professeurs de philosophie que de maîtres des autres écoles.
Mais pourtant, que pouvait-il y avoir de commun entre l'empereur Marc Aurèle et Épictète, qui était un ancien esclave, un affranchi de Néron, expulsé d'Athènes, qui dormait sur un grabat et...
Oui. Non, c'est un très très grand paradoxe, mais il faut dire quand même que à son époque, Épictète était quand même une espèce de star. C'était une espèce de gourou, si on veut, et on voit très bien que on venait exprès, il habitait en fait, il vivait sur la côte nord de la Grèce, dans une ville assez petite, mais qui était quand même une ville stratégique, parce que c'était la ville où on s'embarquait de la Grèce pour aller à Rome. Et tous les Romains qui venaient en Grèce, et tous les Grecs qui allaient à Athènes, en fait, passaient par là, et généralement, il y avait, dans les visites obligées, une visite à Épictète, à qui on allait demander conseil. et qu'un Grec qui allait au Sénat à Rome passait voir Épictète et lui demandait qu'est-ce que je dois faire, explique-moi, donne-moi des conseils.
Mais il est vrai que le style d'investigation personnelle, même d'expérience de pensée, peut paraître assez proche.
Oui,
ayant reçu d'un autre toute chose et ta personne elle-même, ça, c'est un extrait du manuel d'Épictète, livre 4, vas-tu t'irriter et blâmer le donateur s'il te les enlève ? La fête a une fin. Va, retire-toi en homme reconnaissant et discret. Fais place à d'autres. On attache à Marc Aurèle, et les écrits de Pierre Hadot sur ce sujet sont très convaincants, un rôle particulier, un rôle cognitif d'investigation intellectuelle et philosophique à ce qui a été appelé l'exercice spirituel.
Oui, tout à fait.
Comment définir cela et comment situer la conception de Marc Aurèle dans la polémique plus vaste qui a opposé Jean-Pierre Vernon et Pierre Hadot sur la signification exacte de ces exercices spirituels. Exercice de la rationalité pour Pierre Hadot, ou bien alors pratique quasi chamanique pour
oui.
Vernon et ceux qui l'ont inspiré.
Je pense que quand même c'est difficile, pas la limite chez Épictète, mais chez Marc Aurèle, c'est quand même très difficile de voir une pratique chamanique, même si, évidemment, il y a des passages qui sont très littéraires, très un peu mystiques. Bon, ça, c'est clair. Et de ce point de vue-là, Marc Aurèle a peut-être même des aspects mystiques plus développés que Épictète. Mais quand même, c'est effectivement essentiellement des pratiques de méditation très rationnelles, entièrement fondées sur la méditation de dogmes philosophiques et où le théorique est quand même quelque chose qui sans cesse détermine justement des applications pratiques. Et l'un des grands dogmes qui sont centraux chez Épictète, qui d'une certaine manière résume le stoïcisme, mais d'une autre manière l'adapte aussi, c'est l'idée qu'il y a tout simplement des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous.
Mais il y a un véritable artifice aussi de mise à distance.
Oui,
On met à distance ce qui affecte en particulier, puisqu'il s'agit d'une sorte d'exercice de détachement. Et puis on le considère pour ce qu'il est. Par exemple, Pensée 25, livre 5. Quelqu'un commet-il une faute à mon endroit ? C'est son affaire. Ça ne me concerne pas. Il a son tempérament propre, son activité propre. Pour moi, j'ai en ce moment ce que la nature universelle veut que j'ai en ce moment et je fais ce que ma nature veut que je fasse en ce moment. C'est une sorte de retraduction de la réalité, en particulier de l'impact psychique de la réalité qui, en effet, la prive de toute espèce de passion ou de raison d'en être affectée.
Voilà. Oui, alors c'est une retraduction et qui en même temps a justement l'ambition d'éviter toute traduction ou tout commentaire plutôt. C'est-à-dire que il s'agit de dire les choses telles qu'elles sont et de ne rien ajouter, notamment de ne rien ajouter de ces jugements passionnels qu'on fait généralement sur les choses. Et là, Marc Aurèle et Épictète sont très similaires avec des exemples qui se ressemblent beaucoup, qui seront par exemple « Quelqu'un a dit du mal de toi », effectivement c'est ce que vous citiez. Et alors, est-ce qu'on t'a dit que c'était un mal ? Non, on ne me l'a pas dit. Donc, la seule réalité, c'est que quelqu'un a dit du mal de toi. Et il ne faut pas ajouter cette espèce de commentaire qu'on ajoute et qui est le début de la passion. Parce que, évidemment, si quelqu'un dit du mal de moi et si je considère que c'est un mal, je vais me mettre en colère contre la personne. De même, tout ce qui concerne la perte d'un bien ou la perte d'un proche, notamment la perte d'un enfant, il va se dire qu'est-ce qui est arrivé ? J'ai perdu un fils. Y a-t-il quelque chose de plus ? Non, c'est tout. Alors ça fait évidemment partie des choses qui font paraître les stoïciens extrêmement cruels, mais ou insensibles parce qu'ils veulent se détacher même des affections ordinaires. Mais il y a une pensée d'alors qui cette fois est d'Épictète, qui n'est pas de Marc Aurèle, mais qui explique à mon avis très bien ceci. C'est une discussion qu'Épictète a justement avec un père qui ne supporte pas la maladie de sa fille et qui donc s'est enfui au lieu de rester à son chevet. Et Épictète lui dit, mais est-ce que sa mère, est-ce que les servantes sont parties aussi? Et il répond, ah ben non, bien sûr, elles sont restées pour la soigner. Et il dit, mais alors à ce moment-là, toi tu ne fais pas ce que tu devrais faire, parce que tu te laisses justement dominer par la passion au lieu d'agir. Et c'est une des leçons que veut donner Épictète et que veut donner après lui, ou se donner à lui-même d'ailleurs, Barcorel, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les passions ou les jugements obscurcissent nos jugements ou et nous empêchent d'agir correctement.
Mais il y a aussi la volonté de faire coïncider le domaine des actions et des passions, si
oui.
Je puis dire. C'est-à-dire que je ne peux pas être affectée par ce qui ne dépend pas de
par
moi.
Ce qui ne dépend pas
Or,
de
la
moi,
seule
exactement.
Chose qui dépend oui, de oui, moi, oui. C'est l'état de mon âme.
C'est
enfin,
l'état de
là,
mon
on
âme,
retrouve
exactement.
Des énoncés quasi platoniciens,
oui,
d'une certaine
oui,
manière.
Oui,
et à mon âme, de mon âme, je suis responsable. Mais de ce qui m'arrive... Je n'ai pas à en être affectée, pas plus que je n'en suis responsable,
voilà.
Même si, en effet, ce qui arrive vient trancher dans le vif d'attachement très,
oui.
Très fort pour les êtres humains, en
oui.
Particulier.
Oui. Enfin,
alors, on a beaucoup reproché à Marc Aurèle, en tout cas, c'est une chose qui est malheureusement très attachée à son image, les persécutions qui eurent lieu en son temps, au temps de son empire contre les chrétiens, en particulier la grande persécution de Lyon, puisque Blandine fut mise à mort dans l'arène en 177, donc sous le règne de Marc Aurèle. Et en effet, Marc Aurèle a été sans indulgence. Certains disent qu'il n'a rien compris au christianisme. Mais comment un philosophe nourri dans la métaphysique stoïcienne pouvait-il comprendre quelque chose de christianisme? Mais ce qui est frappant, c'est qu'il y a tout de même une certaine proximité entre la prédication stoïcienne et le message chrétien. En tout cas dans la morale, les actes qui sont recommandés ou les...
C'est vrai, mais je pense que Marc Aurèle a surtout vu dans le christianisme une religion politisée et une religion politique. Et donc il y a vu essentiellement une menace pour la cohésion de l'Empire. Puisque une des choses qu'il faisait, c'était justement, enfin que faisaient d'ailleurs en général les empereurs romains ou les romains, c'était de respecter toutes les religions. Et je crois que dans le christianisme, il a vu une espèce d'intransigeance qu'il ne voyait pas dans les autres religions et qui pour lui était une menace contre la cohésion de l'Empire. Et donc je crois qu'il faut surtout justement se garder d'interpréter son hostilité au christianisme comme une hostilité à l'égard de la morale chrétienne ou même de la des dogmes qui sont ceux de la religion, mais ce qu'il voit plutôt, comme d'ailleurs le voient la plupart des autres empereurs, sauf curieusement, semble-t-il, son successeur, dont on a dit beaucoup de mal après, Commode, mais qui semble avoir été plus tolérant que son père, lui, à l'égard des chrétiens, paradoxalement. Alors qu'on en a fait on a donné souvent de Commode une vision absolument catastrophique.
Alors, c'est l'autre reproche qu'on adresse souvent à Marc Aurèle, son indulgence à l'égard de sa femme, Faustine, dont il eut quand même 13 enfants, son indulgence aussi à l'égard de son fils Commode, puisque Commode lui succède, les défauts de caractère de Commode étaient, semble-t-il, évidents, et Marc Aurèle a rompu avec la tradition à laquelle il devait sa place d'empereur, c'est-à-dire l'adoption d'un successeur digne de soi.
Et il n'y a pas grand-chose pour expliquer ce comportement, en fait. C'est très difficile de comprendre pourquoi, c'est presque inexcusable d'une certaine manière, effectivement, pourquoi Marc Aurèle a rompu avec la tradition qu'il avait lui-même portée au pouvoir, où les empereurs adoptaient pour leur succéder celui qu'il considérait comme le plus digne, et pourquoi il n'a pas fait la même chose à l'égard de son propre fils, qui manifestement s'intéressait beaucoup plus aux jeux de gladiateurs que à la philosophie, ça c'est certain, et à la conduite de l'Empire également. Mais il semble aussi qu'il faille quand même relativiser un petit peu ce jugement, puisque maintenant on a tendance à penser que le personnage de Commode a été un peu noirci par les historiens.
Merci Jean-Baptiste Gourina pour cet entretien. Merci à François Connat qui a réalisé cette émission. Merci à Michel Mestre qui était à la technique et à Marie Dalquier. N'oubliez pas, dès à présent, Marie Richeux, pour pas la peine de crier. Et quant à moi, j'espère vous retrouver jeudi prochain, à la même heure. D'ici là, très bonne semaine à tous.